Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Margot.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien, et toi?
Mais ça va bien aussi, contente de t'avoir enfin. Comme on se disait en off, on a un peu galéré avec les grèves, oui. Nos agendas et tout. On voulait vraiment enregistrer en vrai.
Tout à
mais
fait.
Bon, c'est pas possible, donc on est non. À distance et ça fera l'affaire, quoi.
C'est ça, c'est ça. Bah déjà, merci beaucoup pour la proposition, parce que comme je disais en story tout à l'heure, c'est un des premiers, enfin, ton podcast, c'est un des premiers et un des seuls qui m'a vraiment aidé à me lancer il y a 2 ans. Et du coup, c'est vraiment un accomplissement pour moi. Là, je suis hyper contente. Donc, merci beaucoup.
Merci. Non, c'est un plaisir partagé, franchement, je suis trop contente. En faisant mes petites recherches sur toi, j'ai vu que, bah, comme moi, tu avais fait une fac de droit et qu'en fait, toi, tu avais pour objectif de devenir avocate fiscaliste.
C'est ça.
Pourquoi?
Alors là, une fois que j'ai mon entreprise, je me dis, mais j'étais complètement à l'ouest de penser ça parce que, en fait, la seule raison qui me poussait vers ça, c'était de me dire, je vais gagner beaucoup d'argent. En fait, c'était littéralement la seule raison parce que le droit, j'aimais pas ça. Par contre, il y avait un truc de j'aimais déjà l'entrepreneuriat et j'étais déjà intéressée par le monde de l'entreprise, etc. Donc je me suis dit, je fais des études de droit, donc autant lier le droit avec l'entrepreneuriat qui est un domaine qui me fait kiffer. Et en plus, ça va être un métier qui va me permettre d'avoir une carrière assez intéressante et un bon salaire, quoi. Donc c'était vraiment les seules raisons qui m'ont poussée là, quoi.
T'avais déjà des entrepreneurs, il y en a dans ton entourage, tu connaissais déjà l'entrepreneuriat?
Non, pas du tout, c'était vraiment ultra, de manière personnelle. J'ai toujours, quand j'étais petite, je disais tout le temps à mes parents, ouais, plus tard, moi, je serai patronne, je gagnerai plein d'argent et tout. Et puis finalement, bon, ça s'est un peu sorti de ma tête, mais en vrai, j'ai toujours eu un attrait pour les entreprises et pour ce monde-là, quoi.
Ok, bon, c'est intéressant, je trouve, en tout cas. Alors moi, j'ai vu que tu avais créé ta micro-entreprise en 2020, juste après une année de césure où finalement, après tes études, tu es allée en Australie.
C'est ça.
Tu t'es dit « fuck la life, je me
vais ». C'est ça.
Et en fait, c'est là que tu as rencontré des entrepreneurs, c'est ça?
Tout à fait. En fait, ouais, en Australie, j'ai rencontré un qui m'a marqué, un digital nomade. Je savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'étais vraiment. J'avais jamais entendu parler de business en ligne, j'avais jamais regardé de vidéo YouTube à ce sujet, je savais pas du tout que ça existait. Et en fait, je parlais avec ce mec-là et il me disait: mais pourquoi est-ce que tu persistes à faire des trucs que t'aimes pas? Moi, regarde, je fais des sites internet, mes clients, ils me payent de quoi vivre bien. Je suis en Australie, je fais le show en plein tour du monde là. Et en fait, il faut que tu saches qu'il y a tout un univers de digital nomade et tu pourrais très bien regarder, t'intéresser un petit peu à ça. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit: mais attends, t'as un mec qui a mon âge, qui n'a pas fait d'études de ouf, qui n'a pas une expérience de dingue et qui travaille depuis son ordinateur partout dans le monde, sans patron, sans horaire imposé, etc. Si quelqu'un l'a fait, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas avoir cette vie-là aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été sur Google, j'ai tapé comment devenir digital nomade. Et de là, c'est enchaîné. J'ai découvert le métier de community manager. Je me suis dit, ah, bah, ça a l'air sympa. Et j'ai géré des réseaux sociaux, des communautés. Moi, je suis à l'aise avec les réseaux, donc pourquoi pas. Je me suis formée à ça. J'ai fait un stage et ensuite bah, j'ai commencé à vendre ça de manière, enfin en freelance quoi. J'ai pas fait beaucoup de community management, j'ai rapidement basculé vers de la formation, mais en gros c'est comme ça que ça a démarré quoi.
C'était de la formation sur les réseaux sociaux que tu vendais au début ?
Ouais, c'est ça. Au début, c'était principalement Instagram. Genre, en fait, tout ce que j'avais appris dans mes formations et tout ce que j'avais testé sur mon compte, je me suis dit, bah, plutôt que le faire pour les gens, je vais leur apprendre à le faire par eux-mêmes. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans l'univers de la formation en ligne et j'en suis jamais trop sortie, quoi.
D'accord. Et du coup, en un an, ton entreprise, elle a clairement explosé.
Ouais.
Qu'est-ce qui, selon toi, s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Parce qu'on sait qu'il y a, tu vois, plein d'entrepreneurs qui galèrent pendant des années. Moi, j'ai galéré pendant, je pense, 2 ans et demi, 3 ans avant de pouvoir vivre de ça. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la diff ?
Alors, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment fait la différence, c'est que je suis une personne qui fonce tête baissée vers... Enfin, qui fonce et qui est vachement dans l'action. Et du coup, ça a des côtés positifs et d'autres un peu moins, mais pour le coup, en fait, je ne suis pas du genre à me poser 20 000 questions avant de faire quelque chose, je ne suis pas du genre à me demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne cible, la bonne offre, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis prête. Je suis du genre à, j'ai une idée, je la mets en application directement. Et du coup, ce qui fait que, bah, en fait, dès mes débuts, j'ai énormément travaillé et surtout, je n'ai pas passé de temps à me demander si c'était bien, etc. Juste, je faisais. Ça marchait, ça marchait pas, je réessayais, je recontinuais, j'avançais encore et encore. Et du coup, ça fait que bah, c'est ce temps que je ne passais pas à me poser 1000 questions, je le passais à agir. Et du coup, bah, en quelques mois, j'ai fait plus que ce que beaucoup pourraient faire bah, en plusieurs années. Forcément, les questionnements qui te parasitent un petit peu, qui t'empêchent d'avancer, moi, c'est quelque chose que naturellement, j'ai pas trop. Et du coup, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'aller aussi vite au début, quoi.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que y a rien de plus efficace que l'action, quoi.
Si
se passe rien, tu risques pas d'avancer.
C'est ça. Et surtout au début, je pense que après un certain niveau, tu commences à plus réfléchir, à avoir besoin d'avoir une vision un peu plus long terme, un peu plus stratégique, tout ça. Mais au début, étant donné que tu sais rien, tu sais pas du tout comment ça fonctionne, que tu connais pas ton marché, que tu connais pas ta cible, tu ne sais rien. Bah en fait, tous les questionnements que tu vas te poser, ils sont sans réponse, en fait, parce que tu pourras savoir qu'en faisant et en voyant le résultat et ensuite en réfléchissant, en analysant, etc. quoi.
La vente, ça t'a pas fait peur, du coup ?
La vente, ça m'a fait peur au début. Et en fait, j'avais écouté un podcast qui m'avait grave retourné le cerveau, en fait, qui m'avait fait voir la vente d'une autre manière. C'est qu'au début, je pense que comme tout le monde, j'étais en mode, bah voilà, moi, je suis pas une commerciale, je suis pas bonne dans le marketing, j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis, j'ai pas envie d'insister, de forcer, de saouler les gens. Et en fait, quand j'ai vu la vente de l'autre côté, à savoir, bah, en fait, j'ai quelque chose à offrir à des gens qui ont besoin de ça pour se développer et pour atteindre leurs objectifs. Donc, en fait, j'ai commencé à voir la vente vraiment en mode, j'ai quelque chose à t'offrir. J'ai un service à t'offrir. J'ai quelque chose à te proposer qui va, toi, t'aider à atteindre tes objectifs. Et en fait, d'arrêter de voir la vente comme, je veux te convaincre d'acheter, je veux t'en mettre plein la vue pour que tu achètes, mais simplement en me disant dans ma tête, ben, en fait, t'as besoin de mon service, t'as besoin que je t'aide à atteindre tes objectifs, simplement je te propose une solution à tes problèmes. Et du coup, en fait, le fait de voir les choses comme ça m'a permis de un peu désacraliser la vente et de voir ça de manière limite positive, quoi. Enfin, pas limite, de manière positive tout court.
Ok, à quel moment est arrivé Boost Ton Biz, du coup ton programme signature aujourd'hui ?
Oui, alors du coup il est arrivé, je dirais, allez, une dizaine de mois après que je me sois lancée. Donc en fait, moi j'ai commencé par de la formation et des coachings one-one. Donc, j'ai aidé les gens à travers des visios pour leur transmettre mes connaissances. Sauf que du coup, comme j'avais des grands objectifs, que je voulais vraiment me développer, bah, j'étais obligée avec ce business model-là de prendre beaucoup de clients et du coup d'avoir des emplois du temps, mais qui étaient surchargés de visios avec mes clients. Il y a eu des périodes où j'avais genre 15 visios par semaine, ce qui est genre... Et niveau énergivore, on est au top. Enfin, c'était vraiment pas vivable, quoi. Et je faisais que ça le samedi matin, le dimanche matin, toute la semaine, j'étais tout le temps en visio. Et moi, quand je suis en discussion avec quelqu'un, où je donne énormément d'énergie, et ça me lessivait complètement. Et en fait, est venue une période d'épuisement complet et de ras-le-bol. Et en fait, vu que c'est monté hyper vite, bah, la période d'épuisement, elle a été aussi ultra intense. J'étais en mode, je peux plus. Genre là, c'est horrible à dire, mais genre, je peux plus me voir mes clientes, limite. Genre, j'en peux plus. Je peux plus, tu vois, être tout le temps là en train de parler à des gens. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, du coup, à comment est-ce que je pourrais apporter la même valeur et transmettre les mêmes connaissances, mais ben, en travaillant moins et en ayant plus d'impact et en pouvant accompagner plus de personnes. Et c'est là que l'idée d'un coaching de groupe slash formation en ligne a germé dans mon esprit. Et du coup, j'ai fait une première phase de test sur 3 mois avec un petit groupe de 12 personnes, il me semble. Et ensuite, j'ai lancé le programme officiellement bah, en janvier 2022, du coup, il y a 1 an et 2 mois, quoi.
Ok, et donc c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà une activité et qui veulent booster un peu leur activité, scaler, etc.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est des personnes qui ont un projet de business, enfin, qui ont une compétence, genre, je sais pas, qui sont community manager, graphiste, web designer, coach, nutritionniste, enfin, qui ont une compétence, un service à vendre et qui ont déjà commencé depuis quelques mois, mais qui rament un petit peu, qui n'arrivent pas à avoir beaucoup de résultats, qui n'arrivent pas à trouver autant de clients qui le souhaiteraient et qui n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur activité encore. Et nous, on leur apporte toutes les clés pour qu'ils puissent développer leur entreprise et pouvoir en vivre. C'est surtout ça la promesse de Boost ton Biz.
Ok, parce que bon, t'as dit nous. Alors c'est parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe qui gère avec toi le programme et c'est vrai que tu as commencé toute seule avec ta bêta, que tu l'as développée et que c'est au fil du temps que tu as décidé
Ouais.
d'intégrer d'autres personnes. Mais justement, comment ça s'est passé, pardon, et à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, ce serait bien que j'ai une coach ou une personne qui s'occupe des clients, ce genre de choses?
Ouais. Bah, alors je crois que j'ai recruté la première personne dans mon équipe qui est Mélodie, qui aujourd'hui gère quasiment entièrement le suivi des clients, l'expérience client, etc., qui est mon bras droit en fait dans Boost ton Biz. Et je l'ai recruté. Du coup, il me semble que c'était j'avais passé les 30 élèves, il me semble les 20 ou ouais 25 ou 30 élèves. Et en fait, ça devenait absolument ingérable parce que à nouveau, bah, certes, j'avais plus autant de temps de visio à faire avec chacune, mais j'avais un temps de suivi qui était énorme à nouveau. C'était le même problème, mais de manière un peu différente. C'était plus des visios, mais genre je leur parlais tous les jours sur WhatsApp, je leur faisais des audios, je répondais à leurs questions. Et en fait, ben, 25-30 personnes, c'est hyper prenant aussi, surtout que j'ai toujours voulu, dès le début de ce programme, garder le côté suivi, accompagnement, le fait que les femmes qui nous rejoignent, elles se sentent jamais seules, jamais délaissées. Et du coup, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps et de mon énergie à nouveau. Et en fait, je me suis dit, bah, il y a des gens pour qui l'expérience client, le suivi client et la satisfaction client, c'est l'expertise de base, c'est la zone de génie. Et de base, la première personne que j'ai recrutée, c'était du coup quelqu'un enfin Mélodie, qui pouvait m'aider à suivre au mieux mes clients, répondre à leurs questions, parce que Mélodie, elle avait aussi cette expertise de business, vu qu'elle avait lancé son business, ça avait cartonné, etc. Et du coup, quelqu'un qui pouvait répondre aux questions des clients et surtout m'aider à structurer et à améliorer le suivi des clients, processer un peu tout ça, parce que j'ai toujours eu des ambitions d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans ce programme. Et en fait, je sais très bien que tu peux pas passer de 30 à 100, 200 personnes si tu n'as pas des process clairs et tu sais pas exactement où tu vas avec chacune des clientes, quoi.
Ok, bon, c'est intéressant. Et du coup, il y a combien de personnes aujourd'hui dans le programme qui le gèrent avec toi?
Ouais, alors là, on est 6. On est 6, donc il y a Mélodie qui s'occupe du coup de bras droit, de toute la gestion des clients. Et ensuite, on a des coachs mindset, coach business. On a une coach aussi qui intègre les élèves dans le programme et qui revoit un peu avec elle, genre les bases, les fondations de leur business, être sûr qu'elles sont bien au bon endroit, qu'elles sont dans leur zone de génie, en fait, qui crée avec elle les bonnes fondations pour pouvoir développer ensuite le business. Et j'ai aussi une coach productivité, organisation. Et en fait, chaque élève a le droit à un coaching individuel avec chacune de ses coachs. Et ensuite, les filles les suivent, répondent à leurs questions, corrigent leurs exercices, font des visios avec les filles en groupe, etc. Et moi, j'interviens 2 fois par mois en live dans le programme.
Ok, c'est quand même vachement bien rodé, hein.
Bah, c'est ça, et c'est pas venu du jour au lendemain, parce que
Ouais.
forcément, il y a pas mal de gens sur Insta qui me demandent, mais comment t'as fait? Enfin, moi, je veux trop créer un truc quand même, ça me paraît tellement énorme, il y a l'air d'avoir tellement de trucs mis en place, mais ça s'est vraiment fait petit à petit, genre j'ai recruté les personnes une après, enfin les unes après les autres. Il y a des recrutements qui sont venus après des périodes où, genre justement, je m'en sortais plus et que ça devenait vraiment compliqué. Il y a des trucs qui se sont faits un peu dans l'urgence des fois. Enfin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Genre j'ai recruté toute l'équipe et tout s'est rodé comme ça. Ça a été beaucoup de travail, de réflexion, et forcément, plus en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Du coup, on a dû se restructurer à plein de moments et reprocesser à plein de moments. Du coup, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est bien rodé, mais je sais que j'ai envie d'avoir encore plus de monde et que du coup, ça va nous demander encore plus de restructuration. C'est vraiment un travail sur le long terme, quoi.
Ouais, je te comprends totalement. Et du coup, comment tu recrutes et comment tu t'assures d'avoir des personnes qui ont des valeurs communes avec toi? Parce qu'au final, ils vont être en contact direct avec tes clients, donc c'est ta marque qui est engagée.
Bah alors c'est très simple, toutes les personnes de Boostombiz ont été clientes dans Boostombiz de base. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit dans mon équipe personnelle ou dans l'équipe Boostombiz, toutes les personnes avec qui je travaille viennent de Boostombiz. C'est pas fait, enfin ce n'est pas une volonté de ma part de base de choisir que des filles de Boostombiz, mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que vu que moi je suis quand même assez authentique sur Instagram, je suis assez naturelle, enfin voilà, je suis moi-même et du coup ma communauté me ressemble et mes clientes encore plus. Et en fait, je me suis rendu compte que les filles dans Boostombiz avaient du coup été formées par moi, du coup avaient appris mes stratégies, ma façon de voir les choses, et étaient alignées avec mes valeurs, avec ma vision et connaissaient très bien la vision et là où je voulais amener Boostombiz. En plus de ça, tu sais, il y a vachement ce truc dans Boostombiz de communauté, le fait de on partage tous la même vision, tous les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Et du coup, plus qu'un programme de formation, il y a un peu comment dire, l'impression d'appartenir à un mouvement, entre guillemets, à des valeurs communes, à une vision, une mission commune. Et du coup, les filles de Boostombiz me ressemblent de ouf et ont vraiment à cœur de développer le programme avec moi. Et du coup, pour moi, maintenant, ça coule de source, en fait, que toutes les filles qui rejoindront Boost, enfin, toutes les filles qui rejoindront l'équipe de Boostombiz proviendront de Boostombiz, quoi.
Ouais, c'est vrai que quand tu le dis, effectivement, c'est logique et tu trouveras pas mieux
Bah, c'est
que
ça.
des clients.
C'est ça vraiment. Encore une fois, c'est pas venu. Enfin, c'est vraiment venu d'une réflexion où, à force de faire des appels d'offres et de voir que il y avait plein de meufs de Boostombiz qui étaient trop intéressées et que les profils qui étaient les plus qualifiés étaient des filles de Boostombiz, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit ouais, c'est logique en fait parce que dans Boostombiz, il y a que des femmes qui me ressemblent, qui ont envie autant que moi de développer le programme, qui ont été formées par moi. Et du coup, bah ouais, ça coule de source qu'elles m'aident à développer le truc quoi. Et là d'ailleurs, je suis en train de recruter une assistante pour m'aider sur pas mal de choses et je recrute au sein de Boostombiz uniquement quoi.
Donc tu passes l'annonce directement dans la communauté.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ok.
Et c'est cool parce qu'il y a du coup il y a ce côté où je peux donner des opportunités aux filles de Boostombiz directement. Et en plus, maintenant on a 200, un peu plus de 200 femmes dans le programme. Du coup, ça commence à faire une belle communauté. Et on met tout en œuvre pour que les filles puissent trouver elles aussi leurs clients dans Boostombiz, par exemple des community managers ou enfin peu importe l'expertise. On a par exemple créé un annuaire où toutes les femmes sont recensées avec leur métier, leur personnalité, un peu leur différenciation, pour que par exemple si une fille du programme doit déléguer, doit trouver une assistante ou une CM ou une coach en nutrition, j'en sais rien, peu importe, elle puisse déjà regarder dans l'annuaire Boostombiz s'il y a des femmes qui font ce métier-là, voir un petit peu leur profil, etc., et pouvoir travailler avec elles, quoi. Du coup, on incite vraiment entre guillemets, à rester dans la communauté parce que, justement, on a toutes les mêmes valeurs et du coup, ça se passera forcément, logiquement, mieux qu'avec quelqu'un de complètement extérieur, quoi.
Ouais, c'est vrai, 100%. Alors Boostombiz, c'est un programme qui est dispo en Evergreen.
Oui.
Et du coup, moi, je suis impressionnée parce que je te vois redoubler de stratégie pour continuer à maintenir l'envie et l'enthousiasme. Je sais à quel point c'est difficile d'avoir un programme en Evergreen. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton expérience là-dessus? Et puis, toi, surtout, comment tu vois les choses? Comment tu planifies et t'organises finalement les différents événements pour mettre en avant le programme?
Ouais. Alors déjà, moi, quand j'ai décidé de faire Boostombiz en Evergreen, j'avais aucune idée de la difficulté que c'était de vendre en Evergreen. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des coachings de groupe, ouvert des sessions de coaching one-one, mais toujours du coup en lancement, en mode il reste plus que 5 places, il reste plus que 4 places, le classique. Et j'avais pas. En fait, comme je te dis, je réfléchis très peu avant de faire les choses. Et du coup, je me suis dit, vas-y, Boostombiz en Evergreen, les meufs, elles pourront rejoindre tout le temps, trop bien. Sauf qu'en fait, quand t'as pas le levier urgence d'un lancement, c'est hyper difficile de faire passer les meufs à l'action aujourd'hui. Tu vois, elles se disent bah, la semaine pro, dans 2 semaines, dans 3 mois, peu importe, ce sera toujours ouvert de toute façon. Et du coup, bah, je me suis pris un peu ce mur de me dire, ouais, il va falloir que j'innove là parce que sinon, en fait, il n'y a juste personne qui va l'acheter, mon programme. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait plein de trucs. Bon, j'ai tenté la publicité, le tunnel de vente un petit peu froid, qui n'a pas du tout fonctionné pour moi parce que je me suis rendu compte que si les filles achètent Boost on Biz, c'est parce qu'elles me font confiance, parce que j'ai réussi à les réchauffer, entre guillemets, à travers tous mes contenus, le fait que je discute pas mal avec mes abonnés en DM, etc. Du coup, avec un trafic complètement froid, ça n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, j'ai changé de stratégie et je me suis dit, OK, je vais me remettre le focus sur ma communauté actuelle, la développer et l'engager encore plus avec mes contenus, mon podcast, mes mails, les vidéos YouTube, Instagram, etc. Et en fait, j'ai trouvé un peu des... En fait, ma stratégie, c'est de mettre de l'urgence, enfin, d'essayer de mettre un petit peu d'urgence dans un système evergreen où, par exemple, je vais organiser des événements tous les mois ou tous les 2 mois, des événements gratuits, donc soit un challenge, soit une conférence, un webinaire, une masterclass, un atelier, une journée en présentiel. Je l'ai fait aussi et je vais continuer à le faire. Et du coup, j'organise des événements qui sont gratuits et dans lesquels j'invite toute ma communauté à nous rejoindre. Et suite à ces événements-là, je fais des promos, ou alors, soit par exemple, j'offre un petit code promo, soit j'ouvre le paiement en 10 fois pour que les filles puissent plus facilement rejoindre, ou alors j'offre des bonus, genre les 5 premières qui nous rejoignent, elles ont un coaching one-one avec moi, ou un coaching one-one avec Mélodie, ou l'accès à telle ou telle chose. J'essaye en fait de... Et ça demande d'innover, et genre, enfin, des fois, je suis en panne d'inspiration, du coup, si j'arrive pas à trouver d'idée, je le fais pas, tu vois. Mais c'est quand même assez incertain. Mais j'essaye toujours de réfléchir à comment est-ce que je peux mettre un petit peu d'urgence dans la stratégie Evergreen. Et ça me va comme ça parce que je me dis, en fait, au moins, les meufs, elles ont pas la pression du lancement en mode, elles savent que si elles achètent pas aujourd'hui, c'est mort. Elles devront attendre 6 mois avant de pouvoir nous rejoindre. Et du coup, des fois, elles le font de manière un peu émotionnelle, pas vraiment réfléchie. Et des fois, bah, elles regrettent. Ou alors, enfin bref, pour éviter ça, je trouve que l'Evergreen, c'est une bonne stratégie parce que les meufs qui me rejoignent, elles sont sûres d'elles et elles ont réfléchi mûrement. En fait, le fait de mettre un petit peu d'urgence dedans, c'est juste le petit coup de boost qui vont leur faire se dire « Bon bah vas-y, je sais que je veux le prendre, donc tant qu'à faire, autant le prendre maintenant qu'il y a la petite réduction ou le paiement en 10 fois et voilà, plutôt qu'attendre encore un mois. »
Mais effectivement, je trouve que c'est une bonne stratégie et je pense que ça va inspirer pas mal de personnes qui nous écoutent à se dire que en fait, c'est pas parce que c'est disponible tout le temps que les gens vont acheter.
Mais non,
bouger un peu les fesses.
Ah mais vraiment, vraiment. Et pour avoir fait les deux et pour avoir parlé avec énormément d'entrepreneurs qui font plus des lancements, je pense que l'Evergreen, c'est plus compliqué de vendre. Voilà, je pense que c'est vraiment plus compliqué objectivement parce que pour moi, le levier urgent, c'est dans le cerveau de n'importe quel humain, en fait, ça fait passer à l'action. Et du coup, ouais. Si tu veux rendre ton programme Evergreen, alors certes, tu pourras le vendre tout le temps. Mais tu le vendras pas forcément au début, du moins dans les mêmes proportions que si tu faisais un lancement, et ça va te demander de réfléchir de manière beaucoup plus stratégique, quoi.
Clairement. À quelle fréquence tu dirais que tu communiques sur Boost ton Biz de manière générale à travers tous tes canaux de communication?
Bah alors, en fait, je me faisais la réflexion en parlant justement pendant un live là, avec les filles Boost ton Biz. En fait, je pense qu'il n'y a pas une journée limite où le mot Boost ton Biz n'apparaît pas quelque part dans un de mes contenus, tu vois. C'est que quand je suis en période, du coup, comme je te dis, où je mets un peu d'urgence et où je suis je vais bombarder, tu vois, je vais en parler tous les jours en story, en mail, je vais faire vraiment des contenus pour expliquer le programme, pour inciter à acheter. Mais hormis ces périodes de pseudo-lancement, j'en parle quasiment quotidiennement, mais pas en mode rejoignez Boost on Biz, mais juste en partageant les coulisses de Boost on Biz, en partageant les retours des filles, en expliquant ce que j'ai envie de mettre en place comme nouvelles actions dans Boost on Biz, la vision que j'ai de Boost on Biz, la mission que j'ai à travers Boost on Biz, pourquoi est-ce, enfin, en fait, j'essaie d'aborder et je le fais même pas en mode stratégique, c'est juste que je suis tellement passionnée par ce programme et j'ai tellement envie de le développer, j'ai tellement envie d'aller loin avec ce programme et avec les filles que du coup, Boost on Biz occupe de manière générale quasiment toute ma vie et mes pensées et mes actions. Et du coup, bah, c'est hyper facile pour moi et hyper fluide d'en parler. Et sans même m'en rendre compte, j'aborde Boost on Biz quasiment tous les jours dans mes différents contenus, quoi.
Écoute, oui, d'un point de vue extérieur, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça se voit que t'es animé par le
ouais.
programme. Genre, ça se voit que tu kiffes.
Vraiment, vraiment. Et c'est ça aussi, enfin, je sais que ça aide aussi, ça m'aide déjà à vendre parce que,
ouais,
bah,
complètement.
En fait, si t'es animé par un truc, forcément, ça veut dire que tu as mis tous les moyens, que tu fais ton mieux, que tu te donnes à fond, que tu veux rendre le truc le mieux possible. Et du coup, ça donne grave confiance. Et je pense que t'as aussi, enfin, voilà, le fait que moi-même, j'ai une confiance absolue en ce que je propose, à force d'avoir travaillé dessus, à force de l'avoir amélioré, bah, la confiance, c'est quelque chose qui se communique et qui se transmet. Et je pense que cette flamme que j'ai pour le programme m'aide aussi à vendre plus facilement, quoi.
T'as combien d'offres aujourd'hui?
Alors, j'ai Boost en Bise et j'ai une offre en 1-1 où, en fait, c'est les filles de Boost en Bise qui ont eu des résultats, qui ont passé des stades de chiffre d'affaires où elles peuvent vivre confortablement de leur business, etc., et qui veulent le niveau supérieur, à savoir bah voilà, commencer à déléguer, commencer à scaler, revoir un peu le business model pour travailler moins, et voilà, qui veulent passer en gros au niveau supérieur. Et donc, j'ai ces deux offres-là, en fait, le Boost en Bise, et pour celles qui ont cartonné dans Boost en Bise, le palier au-dessus en 1-1.
Ok, c'est intéressant. Du coup, tu te vois pas lancer d'autres, tu te vois pas construire un gros écosystème. Tu veux vraiment te concentrer sur Boost en Bise?
Ouais, franchement, ouais. J'ai des petites formations que j'ai créées ces deux dernières années, mais honnêtement, j'en parle jamais. Je les mets jamais en avant. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je vais faire autre que Boost en Bise, qui va me prendre de l'énergie, ça va me défocus de mon objectif numéro un, à savoir Boost en Bise. Et je dis pas, enfin. Ça, c'est hyper personnel parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais ouais, pourquoi comment c'est que tu t'en lasses pas? Moi, je peux pas rester fixée sur un projet autant de temps. » Et je pense que c'est propre à chacun. Et je dis pas que ma stratégie est la meilleure d'être focus sur une offre. Mais en fait, vu que c'est une offre qui soutient parfaitement ma mission, ce que j'ai envie de permettre aux femmes, ce que j'ai envie d'accomplir, etc., je n'ai pas envie de m'enlever de ce focus-là parce que je sais que si je reste focus là-dessus et parce que j'ai envie de le rester surtout, je peux aller encore plus loin avec ce programme, quoi.
Ouais, je comprends totalement. Alors, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta transparence à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, je voulais aborder l'aspect finance. Parce que c'est vrai que, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ben, on ne t'apprend pas à gérer une entreprise à l'école. Et donc, toi, t'expliquais que tu avais eu du mal à gérer les finances au début de ton entreprise.
De ouf. Parce que, ben, voilà, moi, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui va être très réfléchi. Et du coup, en fait, moi, dans ma tête, quand je suis passée en société, c'est surtout à ce moment-là que ça a commencé à craindre. Parce qu'en micro, voilà, j'avais mon chiffre d'affaires, je savais que j'avais 11% à payer à l'URSSAF et ça n'allait pas ouais. plus loin. Sauf que quand je suis passée en société, dans ma tête, c'était juste, bon, bah, je signe les statuts, ça y est, je suis en société, trop cool, je continue de la même manière. Et en fait, je ne me rendais pas du tout compte de toutes les taxes, de tout ce que j'avais à payer, la TVA, les cotisations sociales, enfin, toutes les charges qui sont... quand t'es en société, quoi. Et du coup, déjà, ça, j'avais aucune connaissance et je m'étais pas renseignée. C'était une grosse erreur de pas me renseigner sur tout ce que j'avais à payer. Je faisais aussi l'amalgame entre le chiffre d'affaires que je génère, le chiffre d'affaires que j'encaisse littéralement à la fin du mois. Et moi, dans ma tête, c'était un peu, enfin, de manière très stupide. Maintenant, je m'en rends compte, mais au début, en tout cas, c'était comme ça. C'est que je me disais, bah, je signe tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, bah, j'ai tant à investir ce mois-ci. Et du coup, je dépensais. Je me faisais aussi, j'étais très naïve au début, et du coup, j'étais vachement appâtée par les promesses de rêve, par les agences qui me disaient qu'on allait faire ça, on allait faire ça, on allait passer à ce chiffre d'affaires-là. Et du coup, je donnais mon argent, mais des milliers d'euros, un peu sans réfléchir, comme ça, je faisais des virements. Enfin, j'étais, pour moi, je jouais un peu avec l'argent sans prendre la mesure de vraiment ce que ça allait impliquer et sans me rendre compte qu'en fait, le chiffre d'affaires que je signe, c'est pas du tout le chiffre d'affaires que je dois dépenser chaque mois. Tu vois, c'est pas du tout, c'est lunaire de penser comme ça. Sauf qu'au début, bah, j'avais pas ces notions-là. Et du coup, il y a plusieurs reprises où j'ai été vraiment dans le rouge. Il y a une fois mon comptable qui m'a appelé après deux. Enfin, il m'a dit ça fait 2 mois que tu es en déficit, que tu creuses ton trou financier. Il faut que tu redresses la barre, il faut que tu arrêtes de dépenser autant et tout. Il y a eu un autre moment à Bali où, pareil, je dépensais pas mal et je me suis retrouvée à des moments à me dire est-ce que je vais réussir à payer tout le monde ce mois-ci? Ça m'a grave mis la pression. Et du coup, ouais, j'ai eu des soucis de gestion financière. Maintenant, je suis accompagnée par ma maman, d'ailleurs, qui travaille avec moi désormais et qui est ultra calée. Elle m'a fait des fichiers Excel. Maintenant, je sais exactement ce qui rentre, ce qui sort, qui doit me payer combien, ce que je dois payer comme charge. Et du coup, j'ai une vision de mes finances qui est plus, qui est vraiment carrée. Et c'est ce que je conseille de. Enfin, plus tôt vous pouvez mettre le nez dans vos chiffres, mieux vous vous sentirez sur le long terme, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et franchement, c'est vrai que. Bah, moi, j'ai pas pensé à en parler, mais effectivement, quand j'ai vu que tu avais communiqué là-dessus, je me suis dit, bah oui, c'est important de le dire, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout comment ça se passe. Moi, j'étais un peu dans l'autre spectre, dans le sens où j'avais tellement peur de manquer d'argent que je touchais jamais à l'argent de la société.
Ah ouais, c'est
l'inverse.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Mais tu vois, pareil, ça sert à rien aussi de laisser l'argent sur le compte, hein, il va pas se passer grand-chose.
Non,
mais
vraiment,
effectivement, tu vois, on se rend pas compte.
Juste au milieu, c'est ça. Ouais. En vrai, l'argent, c'est... C'est tellement, on a tellement aucune éducation financière, on nous parle tellement jamais d'argent que en fait on essaie de se débrouiller comme on peut et par rapport à selon quoi on a été élevé, les croyances de nos parents, les exemples qu'on a eus, les schémas qu'on a vus autour de nous, et ce qu'on a appris en se construisant. Et du coup, si on n'a jamais déconstruit certaines choses et appris certaines choses sur l'argent, bah forcément la gestion financière c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est hyper important de savoir comment va son entreprise, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est la base. En soi, la rentabilité de l'entreprise, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait de la performance de l'entreprise. Donc, c'est hyper important d'être au clair avec ça.
Complètement. Parmi les sujets autour de la finance que tu abordes, tu mentionnes également le fait que ton objectif, en tout cas actuellement, c'est de faire 100 000 euros sur le mois. Allez, parle-nous un peu de tout ça, fais-nous rêver.
Ouais, carrément, carrément. Mais alors, c'est marrant parce que je me rends compte à quel point dans ma communauté, il y a deux teams par rapport à justement le fait que je parle d'argent et que j'annonce mes chiffres d'affaires et que j'annonce mes objectifs. Il y a des gens que ça motive de ouf et ça, c'est trop cool. Et il y a des personnes aussi que ça angoisse et que ça stresse de voir, tu vois, des gros chiffres comme ça. Et forcément, je comprends quand tu te lances et que tu vois quelqu'un qui te dit « bah moi, je veux faire 100K par mois », bah forcément, tu vois un écart monstrueux entre toi et la personne en face. Donc déjà, par rapport à ça, je rappelle souvent que chacun son rythme et chacun ses objectifs. Et déjà, premièrement, tout le monde ne veut pas forcément gagner 100K par mois. Et voilà, ça c'est un truc. On nous incite toujours à vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus. Moi, je suis comme ça et je veux plus et j'ai envie d'aller plus loin. Mais je connais énormément de personnes dans mes clientes ou dans mes amis entrepreneurs qui sont très heureux d'avoir un business qui leur permet de vivre confortablement, de pouvoir avoir du temps libre, du temps avec leur famille, etc. Et qui n'ont pas du tout pour ambition de faire des sommes comme ça. Et c'est 100% OK. Et genre, chacun a ses propres aspirations, quoi. Et déjà, ça, c'est un truc que je voulais rappeler. C'est important parce qu'on nous incite à toujours plus, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce que tout le monde veut. Et t'es pas moins ambitieuse parce que t'as pas envie de faire 50, 100K par mois. Au contraire, tu vois, c'est une incroyable ambition de vouloir un business qui te permet d'avoir une vie ultra remplie, une vie sociale de ouf, une vie familiale, et que t'as pas envie de travailler de manière acharnée, d'aller toujours plus loin, d'avoir la pression. Parce que ça, pareil, faire 100K par mois, sur le papier, c'est trop cool et enfin il y a plein de gens que ça peut motiver, mais c'est pas enfin il y a tout un revers de la médaille derrière, tu vois. Quand tu fais 100K par mois, ça veut dire que t'as X clientes à gérer, t'as X partenaires, prestataires, collaborateurs, t'as une équipe, t'as des enjeux, t'as tout ça à gérer à côté, et du coup c'est pas juste 100K par mois pour l'argent, tu vois. Il y a aussi une contrepartie derrière. Et ça, faut pas l'oublier. Mais du coup, ce disclaimer étant fait,
non,
moi,
c'est important.
Ouais, c'est important, c'est important. Mais en tout cas, personnellement, je sais que plus que 100K par mois, genre sur mon compte bancaire, enfin plus que je vois pas vraiment ça comme l'argent que je vais gagner personnellement, parce que ma vie va pas fondamentalement changer. Je vais pas avoir une vie complètement différente une fois que j'aurai atteint ça. Je suis pas quelqu'un qui est un lifestyle non plus genre de fou, tu vois. Mais du coup, c'est surtout le fait de... Enfin, en fait, ça induit que je vais développer Boostombiz, que je vais accompagner encore plus de femmes, que je vais encore plus m'imposer un peu dans le game, quoi, que je vais avoir encore plus de visibilité, encore plus d'influence, que je vais pouvoir faire porter mon message encore plus loin. Et c'est surtout ça que ça veut dire 100K par mois, parce que en termes d'argent, alors certes, hein, je vais me faire... plaisir, je vais augmenter un petit peu mon confort, etc. Mais concrètement, ma vie va pas changer. Par contre, l'ampleur de mon entreprise et la place de mon entreprise dans l'entrepreneuriat, elle va passer à un niveau supérieur. Et surtout ça, moi, que je recherche. Et j'ai vraiment envie que de plus en plus de meufs prennent conscience de tout ce qu'elles peuvent faire, prennent les rênes de leur vie et décident de choisir leur rêve, choisir leur vie et d'aller vers ça. Et moi, je sais que plus je vais avoir de femmes, plus ma mission sera accomplie, quoi.
Et du coup, c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien pour être l'entrepreneur qui génère ce chiffre d'affaires sur le mois?
Oui, plein de trucs. Mais j'en ai fait un mail et des petits contenus il n'y a pas très longtemps parce que ça fait le 100K par mois, ça fait quand même un petit moment que je me le dis, quoi. Je me dis, ouais, j'aimerais bien faire 100K par mois et tout. Et en fait, justement, j'ai testé la pub, j'ai testé plein de trucs et ça marche pas. Et je me plaignais souvent en mode, ouais. J'arrive pas, j'ai un plafond de verre, j'arrive pas à dépasser le chiffre d'affaires que je fais là, ça fait quasiment un an que je fais le même chiffre d'affaires, je stagne, etc. Et en fait, je me suis posé une question que je pose tout le temps à mes clientes, c'est ton objectif, c'est de faire, bah là, 100K par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu agis comme celle qui fait 100K par mois? Et en fait, bah, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que je me démenais pas pour atteindre l'objectif. J'étais dans mon confort. Je me reposais un peu sur mes lauriers. Je faisais ce que j'avais toujours fait. Et en fait, la règle, elle est simple. C'est que si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les mêmes résultats que tu as toujours eu. Et si tu veux, bah, si moi, en l'occurrence, je veux faire 100K par mois, bah, je dois faire des actions et des choses différentes pour les atteindre. Et du coup, j'ai tout revu, genre mon hygiène de vie, ma routine. Parce que là, ça faisait 6 mois que j'étais à Bali, j'étais dans une période un peu compliquée et du coup, je travaillais pas beaucoup, j'avais un peu tout laissé de côté. Et là, j'ai tout remis à plat. Maintenant, je me réveille à 6 h. Et encore une fois, disclaimer, c'est ma routine. Et l'idée, c'est pas que vous vous sentiez improductif, enfin pas productive ou quoi par rapport à ma routine. Genre là, c'est ma routine pour mes objectifs, pour ma vision. Mais du coup, là, je me lève entre 6 h et 6 h 30, je vais à la salle de sport à 7 h le matin, et ensuite je pars dans mon coworking et je travaille de 9 h à 18 h à peu près, avec une pause à midi. Le soir, je rentre, je coupe complètement le soir, mais en gros, je fais ça 6 jours par semaine. De base, c'était pendant tout le mois de mars, mais je pense que je vais continuer en avril jusqu'à ce que j'ai atteint cet objectif-là, tout en faisant attention aussi à mon équilibre et à pas aller trop loin parce que j'ai tendance à être tout le temps dans un extrême ou dans un autre, et du coup, là par exemple, à tirer, tirer, tirer sur la corde jusqu'à ce que je me dise, c'est bon, j'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter. Donc là, j'essaie de prévenir un petit peu parce que c'est un schéma qui s'est pas mal répété dans mon entreprise, donc j'essaie de faire attention à ça, quoi.
Mais écoute, c'est bien, tu me fais la transition parfaite pour l'autre aspect de transparence que je voulais mentionner avec toi, qui est la santé mentale. Parce
Ouais.
que c'est vrai que t'as aucun problème avec le fait non seulement de dire que bah, des fois, tu es au bout du rouleau, et surtout, en fait, je trouve que c'est hyper fort et courageux que tu aies partagé en fin d'année dernière le fait que tu t'es senti complètement déconnecté de ton entreprise et que ça te faisait plus du tout plaisir ce que tu faisais, ce que tu travaillais, etc. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu?
Ouais, carrément. Alors ça, pareil, j'ai eu des retours ultra mitigés justement parce que c'est quand même un parti pris de dire au moment où tu es dans une période compliquée, de le dire. Et enfin, tu sais, c'est même pas facile, mais c'est plus facile du moins de parler de tes difficultés une fois que tu te sens mieux et que tu en es sorti, tu vois. Et ça, c'est déjà ultra courageux d'admettre que tu as eu des difficultés, mais de le faire quand tu es dedans. Ça peut être dangereux et c'est un parti pris. Et moi, j'ai choisi de le prendre. Et il y a plein de gens, honnêtement, qui m'ont dit que j'en faisais trop. Et je l'ai, enfin, tu vois, ils ont le droit d'avoir leur avis là-dessus. Mais tu vois, j'ai même eu des gens qui me disaient, tu peux pas être coach et en fait t'exprimer sur des sujets pendant que tu es en train de les vivre et pendant que tu es en train de traverser
C'était
ces
des clients, ça,
émotions-là.
ou c'est des
Non,
entrepreneurs autour de toi?
des personnes autour de moi. Ouais, c'était pas
Ok.
des clients. Mes clientes, je pense qu'elles étaient quasiment toutes derrière moi. En fait, elles ont grave compris. Elles étaient hyper, enfin, elles étaient adorables. Et en soi, j'ai continué d'honorer mes engagements avec elles. Et il y avait toute l'équipe derrière elles. Donc, en soi, ça n'a pas trop impacté mes clientes. C'est juste que j'avais pas l'énergie habituelle de les motiver, etc. Et elles l'ont compris. Mais autour de moi, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que, en gros, ça enlevait un petit peu l'envie de venir travailler avec moi, de vouloir bosser avec moi, parce que en fait, je paraissais un peu genre faible à ce moment-là, tu vois.
Ouais.
Donc ouais, bon, voilà, on a chacun ses opinions, j'ai envie de dire, mais
Ouais.
C'est vrai que je me suis remise en question quand même. Et en fait, finalement, là, avec du recul, je me dis, bah, en fait, là, j'ai juste montré publiquement que tu peux avoir des périodes ultra compliquées, que tu peux te sentir hyper mal, que tu peux le partager à l'instant T, et qu'en fait, tu peux repartir. Et là, en fait, je dis tout le temps aux filles de Boostombies ou à mes abonnés sur Instagram ou quoi, tu vas avoir des hauts et des bas, des périodes difficiles, des meilleures périodes. Et là, j'ai la preuve sur mon podcast, tout a été documenté, en fait, de toute la période difficile que j'ai vécue et les semaines où je faisais des podcasts en mode, bon, bah voilà, j'essaie de faire ça pour me ressentir motivée, j'essaie de, là, ça va pas trop, mais voilà ce que je fais pour essayer d'aller mieux, etc. Et aujourd'hui, je suis dans une période où je suis remotivée comme jamais, je me sens bien et je me sens en paix, sereine, apaisée, etc. Et en fait, je suis heureuse d'avoir montré ça sur l'instant, même quand je l'étais en train de le vivre, parce que c'est juste, ça montre juste que bah, c'est pas parce que je suis mal que j'ai moins de compétences, que j'ai moins d'expertise, que ça y est, je suis plus quelqu'un à suivre, parce que je suis plus motivante, parce que j'ai plus une énergie de ouf. Et ça montre juste que, en fait, il y a des hauts et des bas dans tous les business et que des fois, les périodes, elles sont hyper compliquées. Surtout quand, enfin, moi, je sais que je suis hyper sensible, je vis beaucoup les émotions de manière intense et ma communauté également. Et ça permet de leur montrer que, ben, suite à une période difficile, il y a toujours une période qui est incroyable parce qu'en plus, tu la vis de manière, ben, d'autant plus intensément et avec encore plus de joie vu que ça fait des mois et des mois que tu galères. Et du coup, ben, je trouve que c'est un beau message finalement, quoi, malgré que des gens n'aient pas apprécié.
Ouais, complètement. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as perdu la flamme pour ton entreprise, tu vois? Est-ce que, avec le recul, aujourd'hui, tu es en mesure d'identifier ce qui a pu se passer?
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, en juillet, donc tout a commencé au mois de juillet où ça a commencé à devenir vraiment compliqué parce que, bah, d'un point de vue complètement personnel, je me suis séparée de mon copain, j'ai dû déménager, je suis retournée chez mes parents. Du coup, un gros changement, c'était une très longue relation et tout, donc un gros changement de vie complet, qui forcément pas évident. Et du coup, moi, quand je fais face à une situation émotionnellement difficile à gérer, mon réflexe premier est de mettre un peu de côté, même de faire complètement, d'être dans le déni complet de la situation et de tout, voilà, de dire, ok, là ça va pas du tout, je sais que si je cherche à aller mieux, ça va être trop intense, ça va pas être possible, du coup je fais l'autruche, je fais ma vie et je mets un petit peu tout de côté. Sur l'instant, quand j'étais en train de le faire, j'avais pas l'impression que je faisais ça, hein. C'est vraiment avec du recul
Ouais.
que je m'en rends compte. Mais du coup, bizarrement, je me dis, ah bah ça va pas trop mal, je vois mes potes, je sors, je fais la fête, je m'amuse, c'est cool, je profite, ça fait un an et demi que je travaille dur, donc là c'est bon, j'ai le droit de me relâcher, etc. Et donc voilà, un mois se passe, 2 mois se passent, et je me suis dit, bah pareil, c'est trop dur de bosser, c'est trop dur d'avoir des objectifs, d'être ambitieuse, parce que je suis dans une période un petit peu de transition et tout. Donc, c'est les vacances d'été, c'est parfait, je vais mettre mon business un petit peu de côté, et je reprendrai à la rentrée à fond. Et du coup, j'ai mis mon business de côté en juillet-août, c'était prévu, enfin j'avais l'argent, etc. Donc pas de problème. Sauf que, arrivé au mois de septembre, ben, vu que j'avais tout laissé de côté dans ma tête et que j'avais pas mis le nez dans mes problèmes, entre guillemets, quand j'ai voulu me remettre au travail, c'était une catastrophe. Alors, je savais plus quoi faire, plus quoi dire. J'avais l'impression de. Enfin, je me sentais plus alignée avec ce que je faisais, avec ce que je transmettais. Je savais plus ce que j'avais envie d'aborder, etc. Et du coup, j'ai refait la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu à ce moment-là de me dire, vas-y Margot, remets-toi dedans, tu verras et tout, je me suis dit, bah prends un billet pour Bali, ça ira mieux à Bali quand tu seras là-bas, tu seras avec des entrepreneurs, tu kifferas, tu te remettras dedans une fois là-bas. Du coup, j'ai pris mon billet pour Bali, sauf que bah, arrivé à Bali, pareil, trop difficile de m'y remettre, trop difficile d'être entouré d'entrepreneurs qui étaient hyper focus, hyper motivés. Donc, je me suis trouvé des potes qui avaient plus envie de sortir, de s'amuser, de profiter, de voyager. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai laissé des mois et des mois couler. Et en fait, chaque mois, je me déconnectais un peu plus de mon travail, de mon business et de toute la mission que j'avais derrière. Et du coup, quand je suis rentrée en décembre, en fait, j'avais l'impression, il s'était passé 6 mois, hein, donc forcément, c'est énorme dans une vie, 6 mois. Et moi, j'avais énormément évolué. J'étais partie à Bali, j'avais rencontré plein de gens. J'étais plus du tout la même personne. J'avais plus envie de partager les mêmes choses. Et je me suis retrouvée avec un business qui était associée à Margot d'il y a 6 mois. Et du coup, je m'en sentais complètement déconnectée. Et du coup, bah là, ça m'a demandé vraiment. Là, cette fois-ci, j'ai arrêté de faire l'autruche. Je me suis mis dans mon ordinateur. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut s'y remettre parce que là, tu as plus heure de business. Tu continues comme ça pendant 3 mois, c'est bon, plus personne va te suivre, va te soutenir. Ce sera la fin, quoi. Du coup, là, j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis remis dedans. Et puis, comme on le sait, genre, l'action entraîne d'autres actions qui entraînent finalement bah, une reconnexion, en tout cas pour ma part, à ma mission, à ma vision, etc., quoi.
Ouais, du coup, t'as rechangé, t'as ajusté, ouais, un peu ton business pour qu'il colle à la nouvelle Margot que tu es,
C'est
quoi.
ça, c'est ça. Et la nouvelle Margot qui, du coup, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qui a envie d'être beaucoup plus transparente à tous les niveaux, tu vois. Moi, je sais que ce qui a aussi étonné les gens dans le fait que je commence à partager un peu ce qui va pas, etc., c'est que j'ai toujours une image, enfin, j'ai volontairement, hein, donné l'image de bah, celle qui réussit un peu tout ce qu'elle entreprend, qui a l'air d'être toujours au top, toujours motivée, toujours dynamique, bonne énergie, qui se laisse pas ensevelir par ses émotions, etc. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment moi, du moins, c'était plus moi à l'heure où je voulais reprendre. Et du coup, ça, en fait, j'ai décidé de tourner mon message différemment et d'être encore plus transparente et d'être même genre transparente, mais vraiment quasiment à 100%. Et ça m'a donné un tout nouveau lien avec ma communauté et ça donne un nouveau souffle à mon business et au lien que j'entretiens avec les gens qui me suivent, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve que pour les gens en fait qui te suivent et si vous écoutez ce podcast et vous ne connaissez pas Margot, allez voir son travail parce que je trouve qu'effectivement c'est important de dédramatiser un peu le côté réussite et vie tranquille, liberté de l'entrepreneuriat parce que c'est loin d'être le cas. On n'est pas aussi libre qu'on le pense et je trouve que c'est bien. En fait, moi, pendant un temps, ça se faisait beaucoup l'année dernière, je me suis même un peu pris la tête avec une entrepreneure sur Instagram, parce qu'en fait, il y avait des discours qui disaient que si ton chiffre d'affaires, il est entre guillemets, il n'est pas genre en croissance, ton entreprise a un problème, tu vois. Et en fait, je
Totalement
trouve que
faux.
ça met, mais on est d'accord, je trouve que ça met des idées, mais tellement genre hyper maladroites
Mais
dans
de
la tête
ouf.
des gens. Et le fait que toi tu dises, bah, en fait là ça va pas bien et je suis obligée de me bouger les fesses parce que j'ai beaucoup de charges dans mon entreprise et je suis en train de taper dans ma trésorerie, donc faut que j'y retourne. En fait, je trouve que c'est la réalité d'un
Mais c'est
entrepreneur, tu vois,
ça, mais c'est
juste
ça,
ça.
mais vraiment, et il faut tellement genre lever le voile sur ça parce que enfin, tu demandes à n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise, des multinationales, peu importe, genre je suis sûre que t'as pas une seule entreprise qui, mois après mois, croît constamment et augmente constamment. C'est impossible, genre vraiment, c'est impossible. Et il y a tellement de facteurs qui jouent. Déjà, toi, en tant que personne, comment tu te sens, les cycles de la vie, l'environnement, la situation globale, enfin, le marché, la cible. Il y a tellement de facteurs qui fait que, en fait, c'est impossible que ton entreprise elle soit constamment en croissance. Et le fait que ton chiffre d'affaires stagne, voire baisse parfois, ça m'est arrivé tellement de fois, enfin, que d'avoir des périodes où mon chiffre d'affaires il stagne, voire il chute, mais ça ne veut pas dire que mon entreprise elle va se casser la gueule et que ça y est, il n'y a plus rien qui va aller. Non, c'est juste normal. Et maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ça et comment est-ce que tu parviens à repartir, quoi.
Complètement. Mais je trouve que c'est un message important à faire passer. J'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux personnes qui t'inspirent, toi, dans ton entreprise et dans le quotidien?
Alors, ouais, je vais. Alors moi, je vais te dire. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est, les Sibling Sisters. Elles sont sur Instagram, pas mal suivies aussi. C'est deux de mes super copines et elles sont tellement inspirantes. Genre, elles sont arrivées à un niveau, à un stade de business genre de ouf et elles ont commencé en même temps que moi. Et du coup, on a un peu la même personnalité, les mêmes valeurs et Elles sont dans un monde hyper masculin, hyper l'immobilier, voilà, c'est un monde de requins un
Ok,
peu. Et
ouais.
elles arrivent bah, en tant que femmes à s'imposer là-dedans avec leurs valeurs et tout, et je les trouve incroyables. Et sinon, qui est-ce qui m'inspire d'autre dans l'entrepreneuriat? Bah alors, moi, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat pur et dur, mais genre Louise de My Better Self, Louise Aubery, c'est une personne que j'admire de ouf. Alors, on est d'accord ou pas avec ce qu'elle partage, mais j'admire de ouf bah déjà ce qu'elle a construit en tant que bah, le business qu'elle a construit, et surtout à quel point elle est capable d'affirmer son avis, de donner ses opinions et de partager les sujets qui lui tiennent à cœur. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai dû énormément apprendre et que j'apprends toujours à faire, de vraiment être, enfin, de pas avoir peur de dire les choses, de pas avoir peur de ce que les gens vont en dire, etc. Et je trouve qu'elle a ce truc de je pense ça, j'ose le dire, et quand bien même les gens sont pas d'accord, c'est pareil pour moi, et je trouve ça hyper inspirant.
C'est vrai, je te rejoins là-dessus. En tout cas, j'irai découvrir les sisters de l'immobilier, parce que c'est vrai que je ne connais pas, mais ça peut être carrément intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais?
Oui, bah écoute, je pense Instagram, c'est la plateforme où je suis la plus active. Donc, c'est @margot-cunego.coaching. Et puis, vous pourrez trouver mes différents réseaux via Instagram.
Mais très bien, parfait. Merci beaucoup, Margot.
Trop cool. Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.